Et alors la théologie progresse. Parce que de siècle en siècle, on progresse. Il peut même arriver que la théologie arrive à la définition d'un nouveau dogme. Alors, nous allons prendre un exemple. On va faire exprès de prendre un exemple un peu difficile, la conception virginale, un mystère dont se moquent régulièrement les médias françaises. Hein ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire que Jésus n'est pas né d'un rapport sexuel entre ce papa et sa maman ? Monsieur l'abbé, vous vous occupez beaucoup des couples. Vous faites ici des week-ends entiers pour montrer l'importance de la sexualité dans la vie conjugale, que la sexualité, c'est quelque chose de bien. Je vais encore faire cela dans quelques semaines dans cette salle. Et puis vous osez dire que Jésus n'est pas né d'un rapport sexuel entre Marie et Joseph. Vous voyez bien, monsieur l'abbé, que l'Église allait contre la sexualité. Vous n'osez pas dire ça, parce que ça ne vous semble pas propre que Jésus soit né d'un rapport sexuel entre son papa et sa maman. Vous ne devriez pas changer votre langage. Vous ne devriez pas dire comme Françoise Dolto que c'est une façon de parler, que c'est simple, ça veut tout simplement dire que Marie était vierge d'esprit, vierge de cœur, qu'il y avait une tendresse conjugale extraordinaire entre Marie et Joseph. Ça serait tellement mieux de montrer justement qu'il y a une chasteté conjugale, laquelle est compatible avec des rapports sexuels normaux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Je suis très sensible à l'objection. Et puis d'autre part, monsieur l'abbé, vous dites que Jésus a été un homme à part entière. Ben, s'il a été un homme à part entière, il a été conçu comme les autres enfants, non ? D'ailleurs, c'était l'objection que faisaient déjà les premiers chrétiens. Ou plutôt, c'était l'objection dont se servaient les docètes pour attaquer la pensée chrétienne. Les docètes disaient Jésus n'a pas eu un corps comme le nôtre. Il n'avait pas d'intestin. Il n'est pas allé aux toilettes. Il a fait semblant d'avoir un corps. D'où le mot docète, du verbe grec dokei. Il a fait semblant. Vous voyez bien qu'il n'avait pas un corps comme les autres, puisqu'il n'a pas été conçu comme les autres enfants. Et Dieu sait si l'Église était embêtée par cette hérésie docète, qui se servait justement de ce passage de l'Écriture pour appuyer leur thèse. Et l'Église a dit, tant pis, il faut croire les deux, que Jésus avait un corps comme le nôtre et que pourtant son corps n'a pas été conçu comme le nôtre. Et... Bon, donc j'y crois parce que l'Église me dit d'y croire et c'est passé dans le premier symbole des apôtres, il est né de la Vierge Marie. Marie est vierge. Ça, c'est le dogme. Et ensuite, on essaye de comprendre. C'est la théologie. Mais si mon argument théologique ne vous convient pas, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de croire aux élucubrations, si vous voulez, théologiques. Moi, ça me sert beaucoup dans ma foi. Ça me donne une foi beaucoup plus sereine. Mais après tout, si vous ne croyez pas au raisonnement de la théologie, encore une fois, vous n'êtes pas de mauvais chrétien. L'Église, elle vous demande simplement de croire au dogme. Il est né de la Vierge Marie. Seulement, figurez-vous qu'à force d'y réfléchir, les chrétiens, ils en ont obtenu une certaine intelligence. Et ils trouvent que c'est normal que Dieu ait fait les choses comme ça. C'est-à-dire que je vais éclairer ce mystère par l'ensemble du mystère chrétien. Il y a une cohérence en Dieu. Dieu a de la suite dans les idées. Comment se fait-il que vous êtes là ce matin ? C'est une question que vous ne vous posez pas souvent, ça. Comment se fait-il que vous vivez, que vous existez ? Parce qu'un soir, en général c'est le soir que ça se passe, vos parents se sont tendrement aimés. Je suis persuadé qu'il y a plusieurs jours que vous n'y avez pas pensé. Moi, je n'y pense pas souvent. Que je suis né d'une étreinte sexuelle entre mon papa et ma maman. Ils sont morts depuis longtemps, je continue à exister. Hein ? Mais enfin, c'est comme ça que c'est arrivé. Eh bien, si vous êtes chrétien, vous allez à la messe en la nuit de Noël et vous fêtez la naissance d'un petit bébé qui a été conçu d'une toute autre façon. Le petit Jésus qui est là, sur la paille, dedans la paille, entre le bœuf et l'âne, il n'a pas été conçu parce que papa et maman, ils voulaient un petit bébé dans leur foyer. Alors ici, accrochez bien vos ceintures. Il est là parce qu'il existait avant son papa et sa maman. Qu'est-ce que vous dites ? Un enfant qui préexiste à ses parents ? Oh, parfaitement. Si vous n'y croyez pas, nous resterons bons amis, mais vous êtes musulmans. Notez quelque chose de bizarre, les musulmans croient à la conception virginale de Jésus parce que c'est dans le Coran. Le Coran reprenant presque textuellement le texte de Saint Luc. Mais ils ne croient pas, bien sûr, que Jésus est le Fils de Dieu existant de toute éternité. Voyez, j'éclaire le mystère de la conception virginale par un mystère encore bien plus grand, celui de l'incarnation. Commencez par vous étonner d'un mystère encore bien plus grand, dont l'autre n'est jamais qu'une petite conséquence, à savoir que Jésus, ce n'est pas le fruit d'une union sexuelle, il est Dieu, né de Dieu, de toute éternité il existe, avant son papa et sa maman. Il n'est pas là parce que papa et maman, ils sont voulus lui, il est venu de lui-même, comme un grand. Je décide de venir sur terre, de moi-même. Vous avez décidé de venir sur terre, vous ? On ne vous a pas demandé votre avis, moi non plus. J'espère que vous n'avez pas trop regretté le jour ou la nuit où vos parents vous ont conçu. Hein, combien de poètes pessimistes, malheur à la nuit et malheur au jour où j'ai été conçu. Jésus, il vient de lui-même. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. C'est une façon de parler, bien sûr, il n'est pas descendu en hélicoptère. Il descendit du ciel. Il est venu pour nous, il est venu de lui-même. Imaginez que Marie et Joseph aient eu leur enfant comme vous avez été conçu, c'est-à-dire que il serait un homme comme nous, un petit homme, qui tout de suite aurait été habité par Dieu. Mais ça, c'est nous. Moi aussi, je suis un homme habité par Dieu, non ? Dieu habite en moi. Dieu, je suis le temple de la Sainte Trinité. Non, Jésus, c'est pas un homme habité par Dieu. Jésus n'est pas une personne humaine. C'est la personne même du Fils de Dieu. Concile d'Éphèse, 431. Parce que si Jésus était un homme habité par Dieu, ce ne serait pas Dieu qui serait mort pour nous sur la croix. Ce serait un homme comme nous. Non, c'est Dieu en personne. C'est le Fils de Dieu en personne. Le moi le plus profond de Jésus, c'est Dieu. Quand Jésus parle, c'est Dieu qui parle. Je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens actuellement qui, insistant à juste titre sur la sainte humanité de Jésus, vous allez voir combien j'y crois autant que vous, oublient que Jésus, ce n'est pas tout à fait un homme comme nous, quoi. C'est Dieu en personne. Ils seraient beaucoup moins étonnés du mystère de la conception virginale s'ils réfléchissaient sur ce grand mystère de l'incarnation. C'est une conséquence de l'incarnation. Bon, voilà ce que c'est que la théologie. Je ne supprime pas le mystère, mais je l'éclaire par un autre mystère. Le mystère de l'Eucharistie que nous allons vivre en fin de matinée, c'est la même chose. Je peux l'éclairer par d'autres aspects du mystère chrétien, ce qu'on fait normalement à chaque messe. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Tu es étonné de cette mystérieuse transformation de quelques hectolitres de vin, en sang du Christ, de quelques quintaux de pain, en corps du Christ. Qu'est-ce que c'est que cette transmutation des éléments ? Ah, mais Dieu nous aime tellement qu'il veut nous mettre un mémorial concret de son corps et de son sang entre les mains. Prends et mange. Et du coup, la passion du Christ ne sera pas seulement un souvenir, tu l'auras dans la main. Tu auras dans la main le corps qui a souffert pour toi. Les saints communient beaucoup mieux que nous parce qu'ils méditent beaucoup cette réalité du corps de Jésus. Je reçois dans ma main les mains crucifiées de Jésus. C'est un geste d'amour. Est-ce que vous pensez de temps en temps que Jésus vous dit en chaque communion ce qu'un époux peut dire à son épouse en se donnant à elle, « Ceci est mon corps livré pour toi. » C'est un baiser nuptial. C'est un baiser nuptial. Laissez-vous embrasser par Jésus. Jésus vous aime tellement qu'il veut vous embrasser avec son corps crucifié et ressuscité. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. J'y reviendrai tout à l'heure. Hein? J'éclaire là aussi l'Eucharistie partout, le cantique des cantiques partout, ce thème de l'alliance. Dieu fait alliance nuptiale avec nous. Jésus dit au petit Van, ce n'est pas parce que tu es garçon que tu dois oublier que ton âme est mon épouse. Laisse-toi aimer comme mon épouse. Tu es mon épouse, mon petit Van, mon petit Marcel Van. Marcel Van a très bien compris. Non, il faut éclairer les mystères les uns par les autres. La résurrection, ben, le Christ est ressuscité, il est maître du cosmos. Ça lui a un jeu d'enfant, un jeu divin, de transformer du pain en son corps. Ben, il est le Seigneur de l'univers. Il est le ressuscité. C'est en réfléchissant beaucoup sur cette puissance du Christ ressuscité qu'on s'étonne moins de ce mystère de l'Eucharistie. Et puis à la fin des temps, ce ne seront pas seulement un peu de pain, des kilos de pain et des hectolitres de vin qui seront changés au corps et sang du Christ. C'est l'univers tout entier qui sera transfiguré. Et comme le dit très bien Vatican II, cette transsubstantiation de la messe annonce la transfiguration du cosmos à la fin des temps. Quand je célèbre la messe et que je me dis, Seigneur, vraiment, c'est étonnant ce qui vient de se passer sur l'autel. Cette transformation totale du pain et du vin. Je me dis, ça annonce, ce sont les arts, c'est l'annonce, c'est la préfiguration de la transfiguration du cosmos. Nous attendons ta venue dans la gloire lorsque tu viendras transfigurer le monde. Ce qui se fait là sur l'autel, c'est l'annonce de la transfiguration finale. Et on éclaire le mystère de l'Eucharistie par l'ensemble du mystère chrétien. Ce n'est pas uniquement pour vous faire passer le temps qu'on vous fait chanter ça. C'est pour que vous soyez moins étonnés de ce qui s'est passé sur l'autel. La mort du Christ, la résurrection du Christ, le retour glorieux du Christ à la fin des temps éclaire singulièrement le mystère de l'Eucharistie sans le supprimer.